Radio Okapi.
Belinda Bosuma à la présentation de votre journal.
À la une, ce message d'assurance aux populations de Kanyabayonga et environ tombé entre les mains du M23, le chef de l'État rassure de sa détermination à défendre le pays et à rétablir la paix. Félix-Antoine Tshisekedi l'a dit hier dans son adresse à l'occasion du 64e anniversaire d'indépendance de la RDC. Et à l'occasion de la commémoration du 30 juin toujours, dans ce journal, nous vous proposons le témoignage du fils d'un ancien combattant. Âgé de 8 ans, il dit avoir assisté à la cérémonie officielle de la descente du drapeau du Congo belge pour hisser celui du Congo. Lui, c'est le député honoraire Stani Ekili de la ville de Kisangani. Et puis, toujours à l'occasion du 30 juin, nous recevons Jean Kambai Boacha, historien et professeur émérite. Il revient sur la motivation fondamentale qui a caractérisé les Congolais avant le 30 juin et sur d'autres aspects de l'accession du pays à l'indépendance. Madame, Messieurs, bonjour. Le président de la République rassure les populations de Kanyabayonga et des localités avoisinantes. Nous sommes au Nord Kivu, tombés entre les mains du M23 soutenu par le Rwanda, de sa détermination inébranlable à défendre l'ensemble du territoire national et à rétablir la paix. Félix-Antoine Tshisekedi l'a dit hier au cours de son discours à l'occasion du 64e anniversaire d'indépendance de la RDC. Il a aussi expliqué que le défi sécuritaire auquel le pays est injustement confronté est complexe et exige une réponse collective, courageuse et déterminée de tous. On écoute Félix-Antoine Tshisekedi dans ses propos recueillis par Alain Rungmushinj.
En cette journée sacrée de notre indépendance, je ne peux passer sous silence la grave situation sécuritaire qui secoue notre pays. Ce qui se passe à Kanyabayonga, à Kaini, au village du sud de Lubero, ainsi que dans les territoires de Rutshuru, de Nyiragongo et du Masisi, constitue une agression flagrante contre notre souveraineté nationale et la paix de notre peuple. En ma qualité de président de la République et commandant suprême des forces armées et de la police nationale, je tiens à vous assurer de ma détermination inébranlable à défendre l'ensemble de notre territoire et à rétablir la paix. Nos vaillants soldats sont en première ligne et ensemble, nous triompherons de cette agression injustifiée. À nos frères et sœurs de Kanyabayonga et des régions avoisinantes, je veux exprimer ma profonde solidarité et ma compassion face aux souffrances que vous endurez. Votre courage et votre résilience sont une source d'inspiration pour la nation tout entière. Soyez assurés que je mets tout en œuvre pour rétablir la sécurité et protéger nos concitoyens.
Par ailleurs, le chef de l'État a ajouté, je cite, « Je suis conscient des difficultés sociales que rencontrent la majorité des Congolais au quotidien. En ma qualité de garant de la nation, je peux vous rassurer que cette situation me tient à cœur et que rien n'arrêtera ma détermination à y apporter des solutions idoines et urgentes. Aussi, ai-je instruit le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour alléger le coût du panier de la ménagère et améliorer le pouvoir d'achat de la population. » Fin de citation. Et sachez que peu avant ce discours du chef de l'État à l'occasion du 30 juin, des mesures ont été proposées au président de la République pour que les FARDC puissent très rapidement remettre de l'ordre dans l'est du pays et récupérer certaines autres localités occupées par les forces rwandaises. C'est ce qu'a annoncé hier le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement. C'était à l'issue de la réunion du Conseil supérieur de la défense élargi, présidé par le chef de l'État à la Cité de l'Union africaine. On écoute un extrait du compte rendu de cette réunion avec le ministre Patrick Muyaya, propos recueillis par Alain Rungmushinj.
Le président de la République a donc convoqué cette réunion du Conseil supérieur de la défense élargie pour faire le point général de la situation. Évidemment que nous avons parlé de la situation opérationnelle du pays de manière générale dans toutes les trois zones de défense, mais il y a eu un accent particulier qui a été mis sur les événements de Kanyabayonga. Après près de trois heures de discussions et un tour d'horizon avec les différentes autorités militaires, des perspectives et des mesures ont été proposées au président de la République pour que les forces armées de la République démocratique du Congo puissent très rapidement remettre de l'ordre dans cette partie du pays et reprendre certaines autres localités qui ont été occupées par le Force Rwandaise parce que c'est d'elle qu'il s'agit. En même temps, le président de la République a tenu à rendre un vibrant hommage aux forces armées de la République démocratique du Congo qui défendent au prix de leur vie la patrie, et il a lancé un appel à toutes les populations de cette partie du pays, mais aussi à tous les Congolais.
Outre la première ministre Judith Suminwa, accompagnée de quelques membres de son gouvernement, cette réunion a aussi rassemblé les hauts responsables de l'armée ainsi que ceux des services de renseignement civil et militaire. Entre-temps, 24 heures seulement après la chute de la commune de Kanyabayonga dans le territoire de Lubero, la commune rurale de Kaina est aussi tombée aux mains des rebelles du M23 samedi après-midi. Selon des sources concordantes dans la zone, plus de 5000 de ces rebelles sont actuellement positionnés à l'entrée de la commune rurale de Kirumba, leur prochaine cible. En l'espace de 48 heures, les rebelles du M23 ont réussi à occuper presque toutes les grandes agglomérations du sud du territoire de Lubero, notamment Miriki, Kimaka, Kanyabayonga, Luofu et Kaina. À tous ces endroits, les habitants ont abandonné leurs maisons pour se diriger, certains vers Lubero centre et d'autres vers Butembo. Et justement, par rapport à cette situation, l'AMUKA, plateforme de l'opposition, exige des explications du président de la République après la prise de la cité de Kanyabayonga par le M23 appuyé par le Rwanda. Dans une déclaration hier à Kinshasa, le porte-parole de l'AMUKA demande que les autorités disent au peuple congolais qui fait quoi dans l'est de la RDC. Écoutez plutôt Prince Mpenge, cadre de l'AMUKA, dans ses propos recueillis par Alain Rung.
La coalition l'AMUKA et l'ADD Congo exige des explications, exige que M. Félix Tshisekedi nous dise qui fait quoi dans l'Est et qu'est-ce qui est prévu exactement pour que pareille situation ne se répète plus, tant nous avons l'impression que Madame la Première Ministre qui est partie lui représenter est dans la communication politique, est dans le symbolisme. Les populations de Kivu, certes, les 900 000 qui sont déplacés ont besoin de vivre, mais par-dessus tout, c'est la sécurité et la protection qui leur intéressent, car ils peuvent eux-mêmes se nourrir, ils peuvent aller au champ, mais ce qu'ils veulent, c'est les garanties qu'ils ne seront pas égorgés et charcutés par les ADF et les FDLR. Mais c'est Félix Tshisekedi et son gouvernement doivent donner des explications à la nation. Va-t-il encore prendre la parole à l'occasion du 64e anniversaire de la RDC pour renouveler ses promesses de protection?
Rendons-nous en Ituri. Une centaine de personnes composées essentiellement des déplacés ont clôturé hier la formation sur la pâtisserie et savonnerie à Mambasa Centre. Nous sommes à 165 km au sud-ouest de Bunia. Selon la coordination territoriale des déplacés hors site, c'est dans le but d'appuyer ces vulnérables pour se prendre en charge et répondre à leurs besoins vitaux en vivres et en médicaments. Les bénéficiaires qui ont fui les attaques des EDF dans leur village, dans les chefferies de Babi Lababombi et Bakwanza, accueillent avec joie cette initiative en vue d'améliorer leurs conditions de vie. Martial Kiza, reportage.
Parmi ces déplacés, il y a 70 femmes qui vivent dans des familles d'accueil après avoir fui les attaques des ADF dans leur village. Pendant une semaine, ces vulnérables ont appris comment fabriquer du pain, beignets et du savon en poudre et solide. Justin Apekapo, coordonnateur des structures des déplacés de Mambasa, explique l'importance de cette formation.
Nous avions pu songer à organiser cette formation afin que les déplacés de Mambasa puissent se prendre en charge afin de répondre à certains besoins primaires. Mais pour le moment, nous n'avons aucun matériel.
Pour les bénéficiaires, non seulement cette formation va leur permettre de se prendre en charge, mais aussi diminuer les taux de mortalité dû au manque de nourriture et de médicaments.
Nous venons de terminer avec la formation en fabrication de beignets, savon dur et en poudre, ce qui va beaucoup nous aider dans la vie. Ça nous aidera à acheter le cahier de nos enfants et aussi la nourriture pour notre famille.
Pour rappel, depuis février dernier à nos jours, 82 décès sont déjà enregistrés parmi les déplacés installés dans les familles d'accueil à Mambasa Centre. Bounia, Martial Kiza, Biamungu, Radio Okapi.
Nous sommes bien le 30 juin aujourd'hui. En cette journée marquant les 64 ans d'indépendance de la RDC, certains compatriotes gardent encore des souvenirs mémorables de l'affranchissement du peuple congolais du joug colonial. C'est le cas du député honoraire Stanley Ekili de la ville de Kisangani, fils d'un ancien combattant de la guerre mondiale 40-45. Il dit avoir assisté à la cérémonie officielle de la descente des couleurs de la Belgique, ancienne puissance coloniale, et de la montée de celle du Congo alors qu'il était âgé de 8 ans. Stanley Ekili s'est confié à Jacques Moukonkole.
Le jour où on avait eu l'indépendance, ce fut un jeudi, le 30 juin 1960. C'était à la place du canon, quand on faisait descendre le drapeau du Congo belge et ici le drapeau de Patrice Lumumba des 6 étoiles. Moi j'étais là, grâce à mon papa qui m'a transporté au dos pour voir cette cérémonie-là.
Quelle a été l'ambiance ce jour-là à Kisangani?
Bien sûr, bien que j'étais encore moins âgé, mais la ville, l'ambiance était très bonne malgré certaines personnes. Je peux citer même certains membres de PNP qu'on n'était pas tellement contents de cette situation, mais en tout cas, la majorité de la population était très contente pour que notre pays était déjà libéré et accédé à l'indépendance. Non, c'était une grande fête, Jacques, une grande fête. Surtout nous les garçons, c'est nous, on est tous des gosses, mais nous on voyait le mouvement de nos papas parce que chez nous on avait une grande terrasse. Mais l'ambiance était très très bonne. Si, c'était fantastique parce qu'à cette époque-là, le prix d'achat était à la portée de toute bourse. Hein. La bière n'était pas un luxe comme aujourd'hui. Aujourd'hui, la boisson est devenue un luxe. Mais à l'époque, c'est très très bien. Le monde était très content. Toutes les générations, en tout cas, sans exception.
Dans l'actualité aussi, le service national a lancé la récolte de maïs pour la saison 2023-2024 au centre Félix-Antoine Tshisekedi de KCC. Selon le commandant du service national, 16 000 tonnes seront récoltées cette saison, mais l'objectif est d'en atteindre 50 000 en 2025. Le général-major Jean-Pierre Kasongo-Kabouik affirme aussi que l'élevage s'agrandit également de 4 têtes des bovins trouvées à son arrivée. Le service national en compte plus de 2200 aujourd'hui. Il explique aussi que le service national est prêt à travailler partout sur le territoire national où le gouvernement déciderait de l'envoyer. On écoute le général-major Jean-Pierre Kasongo-Kabouik dans cet extrait proposé par Alain Rong.
Si nous faisons cet élevage, nous sommes en train d'agrandir le service national. On peut se dire, même si nous, aujourd'hui, on ne tire pas les dividendes, mais il y a des générations futures. On organise les choses quand même bien. Ceux qui viendront après nous, ils vont profiter de ce travail. Si le gouvernement décide d'intégrer les services nationaux comme peut-être une unité de mise en œuvre pour atteindre tel ou tel objectif, dans l'armée on dit mission égale moyen. Nous vous donnons les missions, nous vous donnons les moyens, vous intégrez. Nous avons le personnel, nous sommes prêts à travailler pour cela. Si le gouvernement décide et planifie cela, nous donne cette mission, nous donne le moyen, nous allons le faire. Qu'est-ce qui est possible? Rien du tout.
Au Kasaï-Oriental, nous apprenons que l'hôpital général de référence de la Mouya ainsi que d'autres centres hospitaliers sont désormais dotés de leur système photovoltaïque. La cérémonie d'inauguration de ces centrales a été présidée à Mbujimayi par le gouverneur intérimaire en présence de quelques responsables des organisations œuvrant dans le secteur de la santé au Kasaï-Oriental. Ce projet est appuyé financièrement par l'USAID à travers Power Africa et l'Alliance pour l'électrification et les télécommunications de la santé, une organisation mondiale de développement du secteur énergétique. Plus de détails dans ce reportage de Esther Dalafina.
Lors du lancement officiel de ce projet de l'électrification du système solaire photovoltaïque, le gouverneur de province intérimaire a indiqué que l'hôpital général de référence de la Mouya bénéficie d'un système solaire d'une capacité de 8 kVA, l'hôpital Christ-et-Roi 4 kVA, l'hôpital général de référence Saint-Pierre 4 kVA et 2 kVA pour le centre de santé de référence de Tshijiba dans les territoires de Niabi. D'après le représentant de l'Alliance pour l'électrification et les télécommunications de la santé État, cet apport permet aux prestataires de santé de sauver des vies et de réduire la morbimortalité maternelle et infantile. Selon lui, ce projet prévoit que 20% à 50% de cette énergie soit destinée à la croissance des besoins internes des structures de santé bénéficiaires et le reste d'énergie alimente les services génératrices des revenus de ces structures pour faciliter la maintenance de ce système solaire. Signalons que cet appui vient mettre fin à l'utilisation la nuit des torches pour soigner les malades dans ces centres hospitaliers. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Merci de nous écouter à Mbandaka. Ici, le bureau de l'UNICEF Grand Équateur a remis vendredi 4 écoles primaires construites dans la banlieue de la ville. Ce projet vient en appui à la gratuité de l'enseignement primaire impulsé par le chef de l'État. Il répond aussi à la sollicitation des populations locales en vue des meilleures conditions d'études en faveur de leurs enfants. Paul-Richard Malengela.
Il s'agit des écoles primaires Ipeko et Ituta au quartier Bongonde Drapo et Makila au quartier Sekluwenji, commune de Wangata, ainsi que de l'Epe Bokando au quartier Ipeko, commune de Mbandaka. Chaque établissement public a bénéficié d'un nouveau bâtiment de 6 salles de classe, d'un bureau de directeur et de deux blocs de latrines séparés, fils et garçons. Les salles sont également équipées en mobilier scolaire, dont une armoire en bois, une chaise et une table pour enseignants. Coût global des travaux et des mobiliers pour les quatre écoles, 450 000 dollars américains. À ce propos, la chargée du bureau UNICEF, Constance d'Almeida, indique que l'appui de son institution vise l'accès et le maintien à l'école des filles et garçons en âge scolaire, mais aussi l'amélioration des conditions d'apprentissage sensibles au genre dans ces localités bénéficiaires. Partout, les autorités politico-administratives et de l'EPST Équateur 1, comme les communautés locales, n'ont pas caché leur gratitude à l'endroit de l'UNICEF et de ses bailleurs. Rappelons qu'au Grand Équateur, l'UNICEF appuie le gouvernement congolais de 2022 à 2026 par la construction de 22 écoles, dont 10 à l'Équateur, 6 au nord Ubangi et 6 autres dans la Tchouapa. Mbandaka pour Chamalingi, la radio Okapi.
Actualité internationale.
Nous sommes au Soudan. Après 14 mois de conflit, la situation ne cesse d'empirer alors que le risque de famine s'intensifie. Les Nations Unies tirent la sonnette d'alarme. Les experts internationaux se montrent pessimistes quant à l'avenir du Soudan déchiré par la guerre. Dans un récent rapport, le Programme alimentaire mondial PAM annonce que 755 000 personnes seront menacées de famine dans les mois à venir. Pendant ce temps, le risque de malnutrition continue d'augmenter chez les enfants.
L'invité.
La République démocratique du Congo célèbre aujourd'hui 30 juin ses 64 ans d'indépendance. Pour l'historien et professeur émérite Jean Kambai Boatia, la Belgique n'était pas prête à accorder l'indépendance au Congo. Il en veut pour preuve l'absence des préparations des cadres congolais qui devraient prendre la relève des Belges. Il note aussi la motivation fondamentale qui a caractérisé les Congolais avant le 30 juin, date de l'accession du pays à la souveraineté nationale et internationale, était la recherche de la liberté. Il revient sur ce point, mais aussi d'autres aspects de l'accession du pays à l'indépendance. C'est à travers cet entretien avec Blaise Makasinandes.
Professeur Kambai Boatia, bonjour.
Bonjour, cher ami.
Pouvez-vous situer le contexte international et surtout local des luttes pour l'indépendance de la République démocratique du Congo?
J'aime bien le mot lutte. La lutte, et la lutte n'est pas finie, la lutte doit continuer. Le contexte est simple, c'est le contexte du dominé à dominant. L'indépendance congolaise se situe dans un cadre où le Congolais veut quitter le stade d'esclavage, le stade de la colonisation, le stade du néocolonialisme, pour entrer réellement dans la liberté, car nous nous connaissons déjà indépendants, mais nous voulons aujourd'hui devenir libres. Voilà la situation.
Alors, quels ont été les principaux facteurs qui ont conduit à l'indépendance en 1960?
Les esprits bien éclairés n'ont pas de facteur. Seul facteur, recouvrement de la liberté. Dieu a créé l'homme comme lui-même, dans la liberté la plus totale. Les circonstances, les facteurs, il y a un seul facteur. Quel est ce facteur? C'est simplement le fait que le noir a été esclavagisé par le blanc, et cela du 14e siècle jusqu'à nos jours. Donc le noir cherche sa libération totale jusqu'à aujourd'hui.
En dehors de Patrice Emery Lumumba, quels sont les autres leaders, les héros, si on peut les appeler, qui ont joué un rôle crucial dans la lutte pour cette indépendance?
Tous ceux qui ont lutté, ce sont les Congolais. Ils ont lutté contre tous ceux-là qui ont privé la liberté aux Congolais. Kipanvita n'était pas indépendant. Il a lutté contre quoi? Contre l'oppression. Simo Kimbangu, il n'a pas lutté pour devenir indépendant. Simo Kimbangu a lutté pour être libre, à tout point de vue, en commençant par la religion. Lumumba, on l'a arrêté et tué. Pourquoi? Il n'a pas dit qu'il voulait être indépendant. Il a dit, nous voulons être libres. Parmi ces gens-là, les Kasavubu, les Kalonji, les Bolikango, les Lumumba, tout ce monde, tout le peuple congolais en général, nous voulions devenir libres. Pas indépendants. Parce que quelqu'un qui est libre, il est tout fils indépendant. L'indépendance, l'esclavage est fini. L'indépendance est arrivée. Nous sommes plus, nous ne sommes pas libres. Nous cherchons maintenant notre liberté. Face aux Occidentaux, face à nous-mêmes, à l'intérêt de nous-mêmes, face aux environs, il nous faut des leaders, prophètes, qui sont capables aujourd'hui de nous dire, peuple congolais, n'ayez pas peur. Continuez la lutte pour être libre chez vous. Que votre terre soit à vous.
Et quel est, selon votre lecture, le bilan des 64 ans d'indépendance de la RDC? Quels sont les principaux acquis et quelles sont les grandes déceptions?
Les acquis. Est-ce que la Belgique était libre de nous donner l'indépendance? La Belgique a été obligée par les circonstances internationales pour laisser le Congo. Elle a laissé le Congo comme une brique chaude. Quand il a vu que les pressions étaient et à l'intérieur et à l'extérieur, il a lâché en abandonnant. Et en abandonnant, vous avez vu, la suite, c'était chaos. Il n'a pas fait la remise reprise avec les autorités congolaises. Et quand en 60, la Belgique est partie, il n'a pas eu de remise reprise. Conséquence, chaos. Mobutu a pris le pouvoir dans le chaos. Et quand il est parti, conséquence, chaos. Parce qu'il n'y a pas eu de remise reprise. Il y a eu chaos entre Mobutu et le musée. Conséquence, chaos. Pas de remise reprise. Et le musée, et le fils de Mouzé, quand il est parti, il y a eu un semblant de conséquence aujourd'hui. Il n'y a pas eu de remise de prise, conséquence, chaos. Le pauvre Tshisekedi est en train de se battre comme il peut. Il n'a pas vu où s'est trouvé le chaos. Quelles sont les mines? Quelles sont les finances? Quelle est l'armée? Quel est l'état de la pauvreté? Conséquence, nous vivons le chaos. Il se débat. Et alors, luttons tous ensemble pour recouvrir notre liberté.
Quels sont les éléments importants qui ont été mis de côté des différentes chansons comme Table ronde, Indépendance Tcha-Tcha, dans le processus d'indépendance?
Un homme comme Kabasele, il mérite d'être héros. Mais l'indépendance Tcha-Tcha, nous dansons le jour où, enfin, on nous a reconnu un tout petit peu de liberté. Là, nous avons un drapeau devant l'ONU, quelque part dans la chanson, on a dit... Tout bas qui dit, la chanson indépendante Tcha-Tcha est une chanson aujourd'hui, doit être immortalisée. La musique a contribué à cristalliser le phénomène de la liberté, à communiquer l'idée de la liberté. Et il faut soutenir ça.
Monsieur le professeur Kamba Iboatcha, merci beaucoup.
Je vous remercie et je suis à la disposition de votre radio Capi.
Notre invité répondait aux questions de Blaise Makasi Nandes. Ainsi prend fin ce journal supervisé par Alain Rongmouchinj, Dieu de Nyangasa, la mise en onde. Merci de rester de nôtres.